Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Et vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous allons parler patrimoine et fondation Ardouvin avec Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la médiatrice culturelle de la fondation Ardouvin. Cette fondation donc, qu'on connaît, hein, je pense, dans le Diois, vous êtes basée à Virchigny.
Le Haut.
Le Haut, ah oui, on précise. Nous allons parler donc des Journées du Patrimoine, hein, ça se tient ce week-end, et vous, vous en organisez une aussi le samedi 15, mais peut-être avant de commencer, la fondation Ardouvin, en quelques mots.
Eh bien, c'est un village d'enfants, avec une soixantaine d'enfants et presque autant d'adultes pour s'en occuper.
Sous quel type de formule ? C'est un centre de vacances, un centre...
Ah non, les enfants sont là toute l'année.
Voilà.
Ils sont accueillis dans des maisons avec des éducateurs familiaux, avec un modèle un petit peu familial, à peu près comme une famille.
D'où la nécessité d'avoir autant d'éducateurs que d'enfants ?
Oui, parce que les éducateurs, ils ont aussi besoin de prendre... des congés, de se reposer, puisqu'ils sont auprès des enfants H24, comme on dit. Donc il y a des moments où, le week-end aussi, etc. Donc il y a des moments où ils ont besoin de se reposer, il y a des relais. Et puis, on a aussi une petite école. Et puis, on développe plein d'activités culturelles aussi, sportives. Et donc moi, là, je suis là pour les activités culturelles, entre autres. Et puis la fondation Robert Ardouvin, c'est une longue histoire, elle a 70 ans, c'est né après-guerre. Il n'y avait à l'époque pas du tout de politique de protection de l'enfance. Donc c'est une initiative privée de Robert Ardouvin, et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme, il a monté une association qui s'appelait d'abord les Amis des Enfants de Paris.
Tout de suite à Virchigny ?
Non, les 2-3 premières années, c'était à Montreuil. Lui-même était parisien ou francilien, je ne sais pas exactement. Justement, suite à la presse, à un petit entrefilet dans une revue dont j'ai oublié le nom, une revue de l'époque, il y a une dame qui a prêté une maison, des terrains, et ils se sont installés à la campagne, donc à Virchigny-les-Hauts, avec l'idée que c'était un cadre favorisant pour ces gamins qui traînaient initialement dans les rues de Paris. Voilà, bon, évidemment, en 70 ans, ça a beaucoup évolué. Et Robert Ardouvin, qui était aussi amateur d'art et qui avait dans l'idée que c'est le milieu qui éduque les enfants, plus que les intentions éducatives. C'est donc une des raisons pour lesquelles il s'est installé à la campagne, mais a eu envie d'entourer les gamins, mais aussi les adultes qui s'en occupent, d'art. Alors on a des très belles collections, mais dont on est les seuls à bénéficier.
C'est fou ça, oui.
Mais on a aussi, et plus particulièrement, alors il y a des choses qui sont dans l'environnement, des masques, des beaucoup d'art ethnique, mais aussi de l'art du XXe siècle. Enfin, il faut venir pour voir, mais ça a été installé dans une architecture créée par un disciple de Le Corbusier, donc tout à fait dans la lignée de ce que faisait Le Corbusier. Donc on a un bâtiment qui aujourd'hui est classé monument remarquable de la région Rhône-Alpes, qui a beaucoup de force, qui est intéressant. Donc on va ouvrir ce bâtiment pour les Journées du Patrimoine. Et on va ouvrir aussi, alors outre le bâtiment et donc les objets dont je parlais, on a aussi une collection tout à fait... pointu, rare, et de livres de poésie du XXe siècle, et plus particulièrement toute la collection, toutes les, y compris aussi les presses, le mobilier, d'un poète, éditeur, typographe qui s'appelle Guy Lévis-Mano, que les néophytes connaissent peu, mais
on ne soupçonne pas l'existence.
Ouais, nous on soupçonne pas, mais eux, les amateurs de poésie, savent que c'est un très grand étudeur, poète, typographe. Et je vais vous citer quelques noms qui vont tout de suite faire se rendre compte que c'était, en tout cas en termes pour sa fonction d'éditeur, qui était importante, il a édité plus de 500 ouvrages durant toute sa vie, uniquement de la poésie. Et ben il a édité des grands noms comme, il a été même le découvreur de René Char, d'André Chédy, de Paul Éluard, de Federico Garcia Lorca, de Pierre-Jean Jouve, de Jacques Prévert, enfin peut-être pas le découvreur de Jacques Prévert, mais en tout cas c'était un des premiers éditeurs. Je regarde dans mes notes parce que ça c'est après-guerre et avant-guerre il y a eu d'autres gens qu'il a découvert, ouais, qu'on retrouve Henri Michaud, je retrouve René Char et... Tous ces ouvrages sont illustrés, enfin pas tous, mais la plupart sont illustrés par des lithographies de Miro, de Braque, voilà. Je ne fais pas la liste de tout, mais c'est quand même un grand bonhomme qui, si je lis bien ce que j'ai pu lire, était un homme en fait extrêmement modeste, un grand travailleur, puisqu'à l'époque, les livres ont les... On ne les tapait pas à la machine.
Ouais, fallait les faire de A à Z.
Voilà,
ouais.
Donc c'était un typographe, à savoir qu'il typographiait lui-même. Vous avez tous vu, je pense...
C'est lettre par lettre.
Les casses de plomb, c'est voilà, ça. Où c'est lettre par lettre. On compose les pages lettre par lettre. Les ouvrages, ils n'étaient pas non plus édités en milliers. Hein, de 500 à 1000, mais on n'a pas des immenses tirages. Et il choisissait donc avec soin ses illustrateurs, donc, puisqu'on a les plus grands peintres. On a des choses même de Picasso, de Giacometti, voilà. Et tous ces ouvrages, ce qu'on a nous, ils sont en général dédicacés par ces personnes. On a des lettres, des échanges, enfin bref. On a un vrai petit... c'est un lieu qu'on appelle le musée GLM, Guy Lévis-Mano, qui a une petite ambiance, un climat comme ça du XXe siècle qui est très touchant et c'est chouette qu'on puisse là le partager en l'occurrence dans le cadre de ces Journées du Patrimoine.
C'est la première fois que vous ouvrez
C'est la première fois qu'on ouvre pour les Journées du Patrimoine. C'est quand même un lieu que certaines personnes ont déjà vu, mais c'est toujours un peu à titre privé. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de médiateur ou de médiatrice culturelle.
Ça allait être le sens de ma question. Enfin, on imagine bien, vu ce que vous venez de nous énumérer, qu'il faut quelqu'un d'employé pour gérer ce truc-là. Comment ça se fait que la Fondation Ardouvin, au-delà peut-être même de l'appétit culturel que pouvait avoir Robert Ardouvin, accumulé comme ça une collection d'abord atypique, peut-être unique d'ailleurs, vous le disiez, et puis tout un tas d'autres objets comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à usage privé en plus? Bon, il y a beaucoup de gamins qui y passent, vous le disiez, mais.
Ouais.
Il y a peut-être déjà 3-4 000 personnes qui ont vu cette collection en vrai depuis 70 ans, même peut-être plus encore.
Je sais pas. il y avait un fonctionnement collectif qui faisait que les salariés mettaient au pot aussi pour. Pour le patrimoine, c'est pas uniquement le patrimoine d'objets et de livres, c'est le patrimoine architectural et ce qui a permis déjà les achats. Et puis après, une fois qu'on est dans un milieu des poètes, ce milieu de la poésie contemporaine de Robert Ardouvin, les plus contemporaines pour nous, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Y a des opportunités qui se présentent, il y a des gens qui ont envie, qui disent que... Par exemple, Madeleine Pissarro, qui était l'assistante de Guy Lévis-Mano pendant des années, après sa mort, elle avait envie de sanctuariser ce patrimoine et elle a proposé à la fondation pour un prix dérisoire parce qu'elle s'est dit qu'à cet endroit-là, ce serait protégé et aimée, je pense. Enfin, voilà.
Mais elle avait des connexions du coup avec cette fondation, ou elle savait simplement...
Oui, oui, parce que Robert Ardouvin s'était entiché, enfin c'est donc pas une jolie façon de dire les choses, enfin aimait beaucoup Pierre Reverdy, qui pour les poètes, et si j'ai bien compris, est une référence. Et en fait, à partir de cette première relation, après ce sont des réseaux, c'est des petits réseaux quand même. Mais une fois qu'on rentre dans une porte, on en suit d'autres, quoi.
Oui, comme vous, par exemple, Isabelle, en débarquant là-dedans, faut intégrer le milieu de la poésie.
Faut s'intéresser à la poésie. Exactement. Et ça a marché. Pas mon monde à la base. Et quand même, à la Fondation, il y a quelqu'un qui s'occupe depuis très longtemps de ce fonds, un ancien salarié, même directeur de la Fondation, et qui lui, a une connaissance approfondie du fonds. Moi, j'ai été embauchée pour voir ce qu'on pourrait en faire, ce qui est un petit peu différent, mais j'ai essayé de m'intéresser à la poésie autrement, en allant à des ateliers d'écriture, enfin, voir ce qu'on pourrait en faire, en fait, pour les gamins. C'était ça qui m'intéressait, d'essayer de voir comment on allait faire un pont entre ces ouvrages très pointus et puis les enfants. Parce que quelque part, entre la poésie et l'enfance, il y a quelque chose qui à la fois semble un fossé et en même temps il y a une évidence. Je crois que le poète, c'est quelqu'un qui cherche sa propre enfance, qui essaye de retrouver sa propre enfance, qui essaye de retrouver des mots les plus près du cœur, comme les enfants ont.
Et si avec on beaucoup fait faire. D'images, surtout aussi.
Ouais. Et les enfants, quand on leur fait faire la poésie, ben, on est toujours profondément touchés. Il y a des associations de mots qui vous vont droit au cœur. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort, quoi. Du coup, voilà, mais le travail n'est pas fini.
Sur cette relation, vous citiez tout à l'heure l'école. Est-ce que justement, c'est déjà un premier matériau qui est bien utilisé dans l'école de la Fondation Ardouvin ou même, d'une manière générale, auprès du public que vous accueillez?
Pas encore complètement,
ouais.
Mais par contre, il y a deux instituteurs, donc l'institutrice qui s'est beaucoup impliquée dans ce, parce qu'on a un projet un peu plus, bon, on va dire un projet de revalorisation de tout ça, et elle s'est beaucoup impliquée dedans parce que je pense qu'elle a tout à fait à cœur de faire en sorte que ce patrimoine appartienne aux enfants, dans le sens où je crois que chaque enfant qui naît qui est élevé dans un endroit où il y a une force au niveau du patrimoine, il en reste imprégné d'une certaine façon. Si on grandit dans une école avec une architecture qui est très belle, il y a quelque chose qui nous en reste toute la vie. S'il y a des livres particuliers, et les enfants, quand ils rentrent dans ce petit sanctuaire, ils sentent la qualité qui a été mise par l'éditeur typographe, poète d'ailleurs au demeurant, il était aussi poète, ils sont sensibles à ce côté un peu trésor et ça rejaillit sur leur attitude, sur leur envie de respecter les choses, voilà.
On peut décrire un peu les autres objets, alors, au-delà de cette collection.
Il y a des choses qui sont dans des vitrines à l'extérieur. Alors, par contre, vous me pardonnerez, mais je ne sais plus son nom. On a eu un enfant qui a été élevé il y a longtemps ici, à la Fondation, et qui est devenu maître verrier. Je ne sais plus son nom, mais on a certaines de ses œuvres. On a beaucoup de poteries de la région de Bio, je crois que c'est ça, en Tunisie. On a des masques africains.
Mais comment alors? Pourquoi?
Ah, il y a eu des donations aussi,
ouais,
parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés par l'œuvre de Robert Ardouvin et qui ont eu envie de contribuer. Voilà, il y a des donations aussi après le décès de certaines personnes.
Par exemple.
On a aussi beaucoup de photos d'une photographe qui s'appelle Ina Bandi, qui d'ailleurs est enterrée à Vercheny et qui a été très connue à une époque. Et on a surtout des photos qu'elle a fait des enfants sur place, mais qui sont très belles. Elles ne seront peut-être pas toutes sorties, parce qu'on ne peut pas tout sortir pour ces journées du patrimoine. Par contre, on va sortir... Donc des personnes retraitées de la Fondation se sont occupées de monter une exposition sur Apollinaire, dont on a aussi des écrits, manuscrits, enfin des choses. et puisque c'est le centenaire du décès d'Apollinaire.
On peut imaginer que donc toutes ces pièces ont une histoire. Est-ce que ça a été aussi votre rôle d'aller chercher un peu d'explication ou de surtitrage pour certaines œuvres? Comme on imagine dans une quête des rencontres de patrimoine, vous allez peut-être être asséné de questions, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est?
Ouais, je ne serais pas en capacité de répondre à tout en ce qui me concerne, mais il y a ces personnes retraitées qui, elles, on connaissent l'histoire pour l'avoir vécue. Il y a des tas de choses que je sais, mais pas tout. Et puis moi, je me suis occupée surtout de l'avenir.
Quel est-il?
Alors bon, rien n'est définitivement axé, ce qui rend difficile. Ce qui rend difficile, voilà, j'ai pas forcément...
On dépiste alors.
Mais on a envie, on va dire. Est-ce qu'on va le faire? C'est pas moi qui en déciderai. Il y a un CA. On a envie de faire un petit centre culturel où on va mettre à disposition du public une partie de ses fonds et organiser des résidences d'artistes. Voilà, des résidences d'artistes, et on invitera le public pour les sorties de résidence. Mmh. Voilà.
Donc plutôt artistes dans le spectacle vivant ou la musique?
Pas non. Toutes sortes.
Ouais.
Et c'est vrai, comme le fond est d'abord littéraire, et surtout littéraire, je pense qu'il y aura toujours un lien d'une façon ou d'une autre avec les mots, on va dire, de façon très générale. Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut faire de la chanson, on peut faire de la BD, on peut faire des scénarios, on peut faire de la peinture, mais en allant chercher les mots dans l'inspiration, dans nos ouvrages. Ce sera aussi aux artistes de trouver leur chemin à travers notre patrimoine et à travers la rencontre avec les enfants, parce que c'est une rencontre forte. Aussi. Et puis aussi, je voudrais rappeler à ceux qui viendront...
Et indispensable, j'allais dire, parce que...
Ils
vont être forcés de vivre cet instant-là aussi.
Voilà, c'est quand même le cœur de l'activité à la Fondation. La culture et l'art, c'est un vecteur d'épanouissement, de prise de confiance en soi, de découverte de son intériorité. C'est beaucoup de choses, que ça peut apporter beaucoup de choses sur le plan éducatif, mais fondamentalement, avant l'art, c'est les enfants, ce qui est normal. Je voulais dire un truc, j'ai oublié, c'est pas grave.
C'est connu, en dehors du cercle des personnes qui auraient pu suivre l'activité depuis 70 ans de la Fondation Ardouvin, est-ce que c'est connu que vous avez ce fonds-là, notamment justement par les artistes que vous visez ou peut-être par des professionnels, une collection comme ça de l'œuvre intégrale d'un artiste,
non,
typographe, poète?
C'est pas connu parce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent de démarche dans ce sens.
C'est vraiment frais, quoi.
Il y a quand même un site, mais qui n'est pas sur Guy Lévis-Mano. Il y a une association Guy Lévis-Mano, mais qui n'est pas... Il y a des liens avec la nôtre, avec la fondation, mais c'est une autre association. Là, vous pouvez trouver des informations sur cet homme-là. Non, c'est pas connu. Il y a des gens qui le savent, mais assez peu. Ouais. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu une première, là. Et puis qu'on espère avoir du monde. Et oui, ce que je voulais rappeler, c'est que le cadre de Vercheniléau, il est très beau aussi. Et puis, il y a une très belle balade derrière à faire dans les vignes ou sur Roche Ronde.
Face aux Trois Becs.
Voilà, face aux Trois Becs. On a un cadre magnifique et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis, on a essayé de mobiliser les enfants et les adultes de la Fondation. À l'heure du déjeuner, entre 13 et 14, on propose un repas partagé. Comme ça se fait beaucoup ici, chacun amène sa gamelle et on partage... Voilà, s'il fait beau, un repas sur l'herbe. Que ce soit aussi un temps de rencontre. C'est aussi notre objectif dans nos projets futurs, c'est que en fait, ce fonds et les résidences artistes, ce soit l'occasion de rencontre. Parce qu'on est un petit peu isolé dans notre village gaulois, tout en haut.
Ah, encore des Gaulois.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'un centre comme celui-là, on n'a pas appuyé particulièrement la description de cet espace. J'invite toutes et tous à aller se renseigner sur la Fondation Ardouvin. Mais c'est vrai que ce travail auprès de jeunes avec une structure éducative, c'est parfois très isolé.
Ouais.
Ou très isolant. Donc là, c'est voilà, un peu l'occasion d'ouvrir de plus en plus. Puis on l'imagine, les artistes peuvent venir aussi créer, développer quelque chose.
Tout à fait.
Voilà, ouais. Appuyer sur de l'éducation également.
Bah c'est sûr qu'un village d'enfants, ça requiert quand même une intimité, une préservation des enfants. C'est important. C'est pour ça que c'était pas facile de trouver le bon projet, celui qui à la fois préserve cette intimité et permet une ouverture. Mais quand même, de toute façon, le village est ouvert, les routes sont, comment on appelle ça, collectives
communales.
Communales, voilà, merci. Voilà.
Oui, on peut passer à travers.
On peut passer à travers et voilà, c'est pas fermé.
On revient un petit coup sur ce bâtiment d'inspiration Le Corbusier, puisque bon, quand même, on est là pour parler du patrimoine.
Ben oui.
Il a été classé, ben moi je ne le savais pas non plus, peut-être que peu de gens le savent également ici. Pour quelle raison, en dehors du fait qu'il ressemble à ce que Le Corbusier a fait, parce que j'imagine que tout le monde a à peu près en tête ce qu'il a fait, pourquoi a-t-il été classé?
Ben parce que sans doute, il n'y a pas énormément de bâtiments de cette nature, il est grand, alors je n'ai pas le nombre de mètres carrés en tête. Il s'intègre de façon intéressante dans le paysage, comme ça il répond au côté un peu aride des montagnes qui sont derrière, là, cette grande ligne de béton.
Donc il suit comme ça là.
Voilà, il y a une espèce de grande barre de béton qui vient. Alors comme ça, dit comme ça, évidemment, on n'aime pas, mais.
Bon, Le Corbusier, c'était du béton.
C'était du béton, du béton brut de décoffrage. Le Corbusier, c'est une architecture fonctionnaliste. Hein. Enfin, je veux dire, pas de décor, et là non plus, hein, pas de décor. Il paraît que Hans van Moos, l'architecte, aurait dit moi, je fais le corps, vous mettrez l'âme. Et en même temps, c'est très bien pensé. On a un très beau toit terrasse avec lequel un bassin avec des poissons rouges et des grenouilles qui font beaucoup de bruit au printemps, avec une vue extraordinaire, donc effectivement sur les Trois Becs, sur le Glandas. Et puis c'est une architecture qui est bon voilà, ça fait maintenant, elle a été faite en 68, ça fait je sais plus combien d'années, une cinquantaine d'années.
Pile.
Et du coup, on peut dire, ouais, elle est complètement adaptable. On peut refaire les cloisons comme on veut à l'intérieur. C'est le système poteau-poutre qui le permet.
Donc, vous l'avez déjà changé plusieurs fois. L'âme a bougé, quoi.
Oui, c'est-à-dire que contrairement à une maison en pierre où quand on casse un mur, en fait, on casse un mur de refend et il y a des problèmes de structure, là, on peut... C'est les poteaux qui tiennent la structure et du coup on peut changer l'aménagement assez légèrement, quoi. Ça demande quand même toujours quelque chose, mais assez légèrement. Et puis c'est aussi l'époque où on a commencé à dire que voilà, enfin c'était Le Corbusier aussi, ça, c'est les fenêtres en bandeau, c'est-à-dire qu'on a une vue imprenable sur toute la longueur du bâtiment. Voilà, c'est complètement ouvert. Bon, après on a un petit peu de problèmes d'isolation.
Ça, ils n'y avaient pas pensé.
Ben, à l'époque, les hydrocarbures ne coûtaient rien et on n'y pensait pas. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. On a très très chaud l'été et plutôt froid l'hiver.
Un bâtiment comme celui-ci classé, n'a-t-il pas des aides pour essayer de se moderniser dans ce sens-là?
Et ben, je vais chercher.
Ah, bon, voilà. Un nouveau travail pour Isabelle. Médiatrice culturelle pour la Fondation Ardouvin. Alors, ce samedi 15, cette journée du patrimoine, comment va-t-elle être montée? Qu'est-ce que vous proposez au public?
Alors, déjà, ça commence à 10h. Mmh. On aura donc ces lieux ouverts, ce bâtiment, le musée Guy Lévis-Mano, l'exposition Apollinaire, un petit point sur l'architecture moderne, justement. Et on a un atelier de typographie. Avec, en partenariat avec Johan du Colophon. Le Colophon, c'est un musée de la typographie qui se trouve à Grignan. Et on va pouvoir faire des cartes postales avec lui. Et puis, il y aura des enfants et des adultes pour vous accueillir, pour vous renseigner.
On se promène complètement librement.
Voilà, sur une partie du bâtiment. On n'ouvre pas tout, hein, ce n'est pas les portes ouvertes de la Fondation Robert Houdouvin, c'est les journées du patrimoine. Mais en fait, je pense que ça peut déjà pas mal vous occuper. Il y en a pour, entre l'atelier, mettons qu'il y en ait pour une demi-heure, et puis les visites, je pense qu'il y en a bien pour 2 heures. Mmh. Voilà.
Et donc ces visites seront faites, on les fait aussi tout seul, ou alors c'est à ce moment-là que vous intervenez, ou peut-être que des enfants...
Alors au musée, il y aura Jean-Jacques, qui est le grand spécialiste du fond. Peut-être sera-t-il aussi à Apollinaire avec Jean-Marie. Voilà, ce sont les retraités de la Fondation qui sont très proches des livres. Moi, je serai là aussi pour l'architecture. Puis les enfants, l'institutrice, Karen aussi, qui vont tourner, qui vous raconteront comment ils vivent ici. Est-ce qu'ils aiment cette architecture? Qu'est-ce qu'ils pensent des livres? Voilà. Et puis on fera, en fait, pour l'atelier de typographie, il y aura un petit travail poétique à faire de chacun.
On pourra repartir donc avec sa production.
On pourra repartir avec sa production. Cartes, ouais. Voilà.
Et puis la typo, c'est vraiment un bel exercice aussi de patience. Hein.
Voilà, comme ça on comprendra mieux ce que c'était que faire des livres il n'y a pas si longtemps. Et du coup, j'ai envie juste de rappeler qu'à une époque, les ouvriers typographes, c'était l'élite
tout à fait.
Du milieu ouvrier. Voilà, c'était pas n'importe quel métier. Un métier de soins, de beaucoup de soins, beaucoup de précision, beaucoup de respect de l'ouvrage et du coup de soi-même aussi. Et je crois que c'est en ça que c'est un exemple pour tout le monde.
Vous pourriez relancer de la typographie artisanale à la Fondation Houdouvin ?
On pourrait. Il faudrait qu'on voit ça avec Yoann, parce que c'est vrai qu'on a les machines de Gélis Mano. On a tellement de choses que je ne peux pas en parler. On a aussi une très belle... avis à la population, on a une très belle... une grande machine quoi, pour faire des impressions en litho. Donc c'est impression avec des pierres, qui n'est pas en activité, mais qu'on pourrait remettre en activité. Voilà.
Comment ça se passe à la Fondation Houdouvin? Petite série de questions annexes, justement. On pourrait venir comme ça avec un projet de ce type. Là, on a entendu à la radio, tiens, oui, moi je...
Ben
et,
ouais.
Et proposer un atelier.
Il faut demander Isabelle,
ouais.
Ou éventuellement Béatrice aussi. On se rencontre, on voit si on peut construire quelque chose ensemble. Voilà.
Et sinon, ça va bien au niveau du travail?
Ouais, bien sûr.
Voilà. Vous ne faites pas partie de ces espaces qui ont été durement touchés par des politiques qui vont à l'inverse de l'éducation préventive, notamment, comme il y en a eu dans le département récemment.
Je pense que c'est un peu une priorité, la population qu'on accueille. Du coup, pour le moment,
ça va.
Mais après, je ne suis pas aux manettes des finances.
Et vous recrutez?
Souvent. Ouais.
Bon. Une série d'informations, alors donc pour qui veut bien les entendre. Est-ce qu'on vous retrouve, j'entendais un site internet, non c'était pour...
Pour GLM, oui, mais il y a un site Fondation Houdouvin.
Voilà. Bon, c'est facile à trouver donc sur internet. Rendez-vous pour ces journées du patrimoine donc le samedi 15 septembre à partir de 10h donc à Vercheny-le-Haut.
Jusqu'à 18h, apportez votre repas partagé le midi, à partager.
on aurait oublié quelque chose?
Ben venez. Venez, voilà. C'est unique, c'est des conditions que vous ne retrouverez pas, puisque si on monte notre petit centre culturel, ce sera autrement, un peu ailleurs.
Et donc pas forcément ouvert à un public large?
Si, mais différemment, ce sera là, il y a... voilà.
Merci Isabelle.
Ben c'est moi qui te remercie.
On se retrouve quand vous voulez, à la Fondation Houdouvin en tout cas, et sur cette antenne.
Hey, the bird.
L'interview du jour.